Vous êtes sur RTL.
Pascal Pro sur RTL.
Il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. On le dit à ce micro, mais manifestement, depuis une dizaine de jours, le gouvernement a changé de ligne depuis l'annonce par Jean Castex des mesures nouvelles, alors qu'on attendait un reconfinement. Et Olivier Véran va dans ce sens. Bernard, qui habite Josier dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est ça, oui.
Donc votre sentiment sur cette phrase, est-ce que vous l'avez bien accueilli ?
Oui, d'abord je les crois, premièrement. Deuxièmement, je les ai bien accueillis. Bah, j'ai assez fustigé le gouvernement pour les mesures de confinement, que je ne peux être que réjoui de ce propos. En fait, si vous voulez, je pense que le gouvernement a changé sur les 10 derniers jours, c'est ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Je pense que le gouvernement a enfin pris conscience que finalement, le confinement, bon, voilà... Mais d'un autre côté, ça crée énormément de problèmes, et c'est pas moi qui le dis, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui le disent, beaucoup d'autres problèmes psychologiques, bien sûr les problèmes économiques et des choses comme ça. Donc en fait, je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait trouver d'autres méthodes, et puis malheureusement, moi je suis pas compétent, mais j'écoute des personnes qui disent que le Covid n'est pas forcément fini, qu'il y aura peut-être d'autres pandémies. Donc ça, moi je suis pas compétent pour le dire encore, mais ça me semble quand même d'une certaine logique, si vous voulez, et qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Voilà. Et donc ça me semble déjà être un premier pas et une bonne décision de ce gouvernement, quoi. Voilà. Et voilà ce que j'ai à dire, parce que en fait, si vous voulez, il va falloir apprendre à vivre. Alors apprendre à vivre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus tard, il faudra peut-être travailler sur les hôpitaux pour qu'ils soient beaucoup plus équipés, peut-être légèrement surdimensionnés, si je peux me permettre ça.
Il y a 5 000, aujourd'hui on n'arrive même pas à savoir précisément le nombre de lits. On dit 5 000, mais je sais que c'est très difficile auprès de la direction de la santé d'avoir le chiffre exact.
Oui, vous avez tout à fait raison, il y a des informations contradictoires. Mais moi, comme ça, sur un pays comme la France, vous voyez, 5 000, moi, ça me semble pas suffisant, quoi, si vous voulez.
Nous sommes d'accord.
Si on avait des hôpitaux un peu surdimensionnés, vous comprenez mon expression.
Bien sûr.
Si on commençait à travailler beaucoup plus activement sur les vaccins, et donc avec des vaccins, des hôpitaux surdimensionnés, on pourrait se permettre d'avoir des gens... on n'aurait pas peur comme ça de sursaturer les hôpitaux. C'est deux pistes, et ensuite, on ouvre tout et on a des gestes. Bien entendu, il faut respecter certains gestes barrières. Faut apprendre peut-être à vivre un peu avec les masques, les choses comme ça. Mais au moins, on va au cinéma, on va au resto, on vit, quoi, si vous voulez. De toute façon, la vie comporte des risques et il faut apprendre à vivre avec. Et je crois qu'il va falloir apprendre à vivre. Ça, et une décision comme ça d'un gouvernement qui ose, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, on maîtrise un peu les choses et on va pas vous reconfiner. Bon, vous voyez, alors qu'on voit quand même qu'il y a plus de 20 000 cas déclarés par jour.
Oui, c'est ça le paradoxe.
On est quand même bientôt à 80 000 morts, donc il faut être courageux pour
ça. Oui, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que la situation, non seulement elle n'est pas meilleure qu'il y a 15 jours, mais elle est sans doute un peu plus tendue. Et il y a 15 jours, vous aviez Gabriel Attal qui imaginait un confinement serré. Et 15 jours plus tard, dans le même gouvernement, vous avez M. Véran qui dit peut-être qu'on ne reconfinera pas. Donc, manifestement, il y a eu changement de stratégie. Et c'est ça que nous décryptons. Mais c'est vrai que les auditeurs... D'une certaine manière, aujourd'hui, c'est pour ça que votre témoignage est intéressant. Eux-mêmes ont changé de discours depuis.
Oui,
alors, je ne sais pas si c'est 3 semaines à moi, mais je l'observe.
Si vous me permettez, Pascal, je pense que les gens, on apprend, si vous voulez, on a tous des... Moi j'ai fustigé le gouvernement comme c'est pas permis. Donc, pour une fois, je me dis, voilà, ils ont appris. Et puis, il y a des sociologues, il y a des psychologues qui disent, attendez, mais là, vous allez, les gens, ils vont se faire des déprimes, les jeunes, on est en train de les punir quelque part, les pauvres, si vous voulez. Peuvent plus rien faire, ils sont en télé, ils font leurs cours en télétravail. Bon, il va falloir quand même un de ces jours que on n'a plus de contact avec les gens, même quand vous êtes une entreprise. Moi, je l'ai fait, vous faites du télétravail, bon, ça va bien un moment, vous êtes tout seul chez vous,
vous
avez vos copains en face en plus, on est obligé de couper l'image parce que des fois, les bandes passantes font qu'on peut pas se voir, il faut qu'on monte les PowerPoint et des choses comme ça. Moi, je dis que là, si vous voulez, et ça va pas, ça va créer d'autres problèmes. Donc il va falloir, tant pis, on aura des risques, tant pis, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, si vous voulez, vous prenez la route, vous avez des risques partout, quoi. Donc Moi, je pense que si on arrive à maîtriser, mais pour ça, et c'est ça que quelquefois je fustigeais beaucoup le gouvernement, parce que bon, j'écoute pas, je passe pas ma journée à écouter, mais en fait, si vous voulez, j'ai pas beaucoup d'informations moi personnellement sur quel est le plan d'action vers les hôpitaux. Vous voyez.
Ben merci Bernard. Vous étiez le premier témoignage de la journée, 13h08. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que vous nous appeliez, pas si vous êtes sur la route, bien sûr, mais vous vous arrêtez et vous nous dites si, par exemple, il neige. Moi, j'adore ça. Ça, c'est du témoignage de terrain, Greg Cananoni. Par exemple, à Brest, je crois qu'il n'a plus neigé depuis 1986. Donc, si vous habitez dans le Finistère, si vous habitez à Guingamp, à Lamballe, à Saint-Brieuc, à Brest, appelez-nous et dites-nous si vous voyez tomber la neige.
Tombe la neige. Tu ne viendras pas
ce soir. Il neigeait, on était vaincus par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Appelez-nous ! À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À se faire une petite playlist de neige, forcément Laurent Tessier.
C'est d'actualité. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il est évidemment possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Ce sont les mots ce matin du ministre de la Santé, Olivier Véran.
C'est fou quand même, je vous assure, il faut parfois se pincer. Je disais, il y a 15 jours, on était sur un confinement serré. Et alors, le président de la République, manifestement, a tapé sur la table et on a changé de ligne.
Et comment accueillez-vous cette phrase? Bah Bernard a été le premier à réagir au 32-10.
D'abord, je les crois, premièrement. Deuxièmement, je les ai bien accueillis. Bah, j'ai assez fustigé le gouvernement pour les mesures de confinement, que je ne peux être que réjoui de ce propos.
Et c'est souhaitable, écrit Sylvie sur la page Facebook de l'émission. Ah, mieux vaut tard que jamais, nous dit Cécile. Nous voulions entendre cette phrase et je reste persuadé qu'il n'y aura plus de confinement. Rendez-nous notre liberté une bonne fois pour toutes. Bruno félicite le ministre de la Santé pour sa lucidité. Et je ne sais pas vous, nous dit Christophe, mais savoir qu'on pourrait ne jamais être confiné me fait un bien fou. Mmh. Et ne rêvez pas trop vite, hein, prévient Sylvie. Olivier Véran a bien dit, il est possible. Alors comme disent couramment les politiques, rien n'est exclu.
Oui, mais avant il était possible qu'il y ait un confinement serré. Donc là, il est possible que ce soit mieux. Mais vous avez vu le ministre de la Santé, il a montré son torse hier, ses muscles.
Exactement.
Eh oui, il s'est quasiment déshabillé pour se faire vacciner.
Ah, il avait une chemise, donc il fallait...
Bah, généralement, on remonte
Chacun sa méthode.
Non, mais on a pu apprécier.
Le risque était trop gros, peut-être, pour que la manche passe.
Peut-être. On a pu apprécier sa belle ossature. Qui est avec nous? Thierry, bonjour. Qui habite en Charente. Merci d'être avec nous. Bonjour Thierry.
Je vous remercie. Je ne sais pas s'il est encore en ligne, Bernard, mais je vais me permettre de reprendre.
Il est là, Bernard.
S'il me le permet, je reprends l'intégralité de ce qu'il a dit. Parce que je suis complètement d'accord avec lui. Et vous voyez, comme il dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, ça me rassure, finalement, je suis pas un imbécile parce que je change d'avis. J'avais eu un échange avec vous il y a un an en arrière, au tout début de la crise. Et ça va vous revenir parce que je m'étais fait traiter, entre guillemets, de pétochard par un médecin à la retraite parce que j'avais peur de cette pandémie qui arrivait. On savait pas. Il y a un an en arrière, on n'avait aucune donnée, on n'avait rien. Et puis le temps a fait, j'ai appris à vivre avec. Ma vie, tous les jours, a un petit peu changé. Mais je vis avec, je vais faire mes courses, j'amène mes enfants à l'école. On vit, on fait attention, c'est tout. Donc oui, on n'est pas obligé de se reconfiner, on peut vivre. Par contre, c'est vrai que ça n'exclura pas, malheureusement, les décès, les personnes fragiles, les personnes âgées.
Voilà, c'est ça le souci de cette maladie.
Mais Pascal, on teste, il y a 25 000 cas positifs par jour, à peu près. On n'est pas à 500 morts par jour.
Ouais, non, mais la très grande difficulté, voilà. Thierry, c'est la disparité, parce que
on est d'accord.
Voilà.
Mais après, il y a aussi qui sait. Peut-être que vous l'avez eu, vous, le Covid durant cette année.
Oui, mais moi j'ai pas de comorbidité. Donc c'est voilà, pour ça, moi, c'est comme les jeunes.
Moi c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis, et je rejoins ce que disait Bernard. Aujourd'hui, on doit. Je vais pas me permettre de dire on doit, parce que je suis pas un décideur. Mais on peut vivre avec. On sait faire, puisqu'il nous, maintenant, j'ai l'impression, effectivement, il change de sens et je suis heureux de ça. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'un peu le capitaine a décidé de reprendre la barre. Et il va dire, il va nous amener avec lui, et petit à petit, on va montrer qu'on arrive à vivre avec, qu'on va se structurer, les hôpitaux un an après soignent mieux le Covid. Apparemment, sauf erreur de ma part, je suis pas un grand spécialiste, mais en réanimation, les gens restent moins longtemps, les réanimations sont moins lourdes. Tout a avancé en un an. Donc, et puis de toute façon, on va pas rester sous cloche pendant des mois et des années. Si à un moment, il va falloir qu'on sorte, qu'on vive. Les artistes, tout le monde a besoin de se retrouver, on a besoin de sourire, de vivre. Voilà, de vivre, tout simplement.
Ben merci Thierry. Je le dis, la très grande difficulté, c'est la disparité de cette maladie. C'est-à-dire que des gens fragiles ou qui ont des comorbidités ont un passage de la maladie qui est absolument terrible, vraiment terrible. Et ça, faut le dire. C'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés, ils sont sous parfois respiration artificielle, ils saturent, comme on dit, d'une manière importante, ils ont besoin d'oxygène. Mais effectivement, si vous allez plutôt bien dans votre vie, a priori, si vous chopez le Covid, ça sera pas agréable, mais ce ne sera pas aussi dramatique que ça peut l'être sur ce type de personnes fragiles. Merci Thierry, en tout cas, de votre témoignage. Elisabeth est là parce qu'on a une autre question, c'est faut-il fermer tous les établissements scolaires pour 4 semaines, et ça c'est ce que réclame le syndicat majoritaire des médecins de l'éducation nationale. Vous êtes maman ou vous êtes mère au foyer, Elisabeth?
Voilà. Bonjour Pascal et bonjour à tous.
Bonjour, combien d'enfants chez vous?
Plus qu'une qui est scolarisée.
Quel âge elle a?
16 ans.
D'accord.
Et moi je suis à la fermeture, parce que franchement, je vois avec le premier confinement qu'il y avait au mois de mars, qui avait été très strict, malgré qu'elle soit une très bonne élève, eh ben, elle a quand même perdu des habitudes de travail, elle a commencé un petit peu à décrocher, donc ça fait que maintenant, on lui resserre la vis pour être derrière elle, pour l'aider. Comme moi, je dis, j'ai encore la chance, parce qu'on peut encore, on a un niveau où on peut encore réussir à l'aider, mais je me dis, ceux qui ne peuvent pas suivre les enfants, ben, c'est rock'n'roll, quoi.
Mais ça, ça m'intéresse. Vous l'aidez en quoi, par exemple, Elisabeth?
Ben, je vois, je la pousse simplement déjà pour les leçons, parce que quand elle était en distanciel, ben, elle avait tendance à faire le devoir.
Mais dans quelle matière vous êtes encore à niveau, si j'ose dire? Parce que par exemple, en maths, par exemple, on peut être largué en langue, ça peut être compliqué.
En maths, je suis largué. Bon, un petit peu s'appeler pour l'algèbre, etc. Mais je veux dire, après, quand on commence à aborder tout ce qui est géométrie, trigonométrie, alors là, par contre, ça fait depuis longtemps que j'ai lâché prise.
Donc,
sinon, pour le français,
Oui, bien sûr.
Voilà.
Français, la difficulté parfois, c'est d'expliquer les règles, parce qu'on sait évidemment où les accords, s'ils ont fait des fautes, mais d'expliquer les règles de grammaire, c'est pas forcément facile.
Ah ben on ressort les vieux bouquins, on ressort le Becherel, on a toujours le bled sous la main.
Vous avez le bled encore?
Oui, on a encore le bled.
Ça c'est formidable, le bled, effectivement tous les enfants.
Nous on a fait toute notre scolarité quand on était au primaire, etc. Début du collège aussi, et maintenant ça s'est passé de mode.
Je me demande si Greg Karadeni sait ce que c'est que le bled. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Le bled?
Oui.
Le livre, vous voulez dire?
Oui, ce qu'on appelle le bled.
Oui, bien sûr, c'était un livre qui permettait d'apprendre les conjugaisons.
Plus la grammaire les conjugaisons,
voilà,
parce que la conjugaison, c'était le Becherel. Je ne sais pas s'il est toujours édité ou pas, d'ailleurs, le bled. On va regarder.
Si, le Becherel, si, il est édité.
Ah, le Becherel est édité, oui. Édité, mais le bled...
C'est là qu'on s'aperçoit qu'on vieillit.
Ben merci en tout cas Elisabeth, merci à vous.
De rien, bonne journée.
Merci
au revoir.
À vous et on va poursuivre évidemment. On a beaucoup de thèmes aujourd'hui. On a le grand froid et on a un thème qui est très intéressant pour les parents forcément face à la pornographie en ligne. Nos enfants sont-ils suffisamment protégés? Faut-il supprimer certaines aides municipales aux familles de délinquants? C'est la mesure décidée par la ville de Poissy dans les Yvelines et son maire Carl Olive. Et puis vous pourrez rendre hommage à Jean-Claude Carrière qui nous a quitté hier à 89 ans, le journal d'une femme de chambre, Belle de jour, Le tambour, Danton, Cyrano de Bergerac, Le retour de Martin Guerre, à la fois un cinéma populaire, mais parfois également pour initier. Belle de jour de Buñuel est un film, par exemple, formidable. Donc venez nous parler de Buñuel, sans doute, mais de Carrière.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Vous posez la question là, hein,
oui. Ah oui, je vous demande ce que c'est.
Attendez un peu.
C'est une chanson sur la neige?
Écoutez. Voilà, la neige au Sahara en Rhône. Ça vous plaît pas, hein?
Non. Mathieu est avec nous. Bonjour Mathieu. pour parler du grand froid. Alors, il n'y a pas de polémique sur le grand froid. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le grand froid? On est souvent dans des témoignages ou dans de l'opinion, là.
Ah, moi, je vais reprendre ce que vous avez dit hier. L'été, il fait très chaud, et puis l'hiver, il fait très froid. C'est ce que vous avez dit hier, en parlant d'Auxerre.
Il m'arrive parfois d'avoir des illuminations de ce type.
On est philosophe, hein. Non, mais écoutez, ici...
Vous êtes où, d'abord?
Dans l'Avesnois, donc dans le Nord, département du Nord.
Oui.
Donc vraiment dans le sud du Nord, région Avesnois.
D'accord.
Ces coins-là, quoi. Et donc ici, on a à peu près 7 cm, 5 à 6 cm de neige, et il fait moins 7 actuellement. Et là, il neige tout doucement. Donc vraiment, un beau paysage, et puis des belles photos à prendre, et puis des balades à faire aussi, exactement, quand il fait de ce temps-là. Là, pour l'instant, je ne travaille pas. Donc... on va dire qu'on va profiter, quoi.
Bon, quelle température?
Moins 7, là. Actuellement, avant de que on a plié, il faisait moins 7.
Quand vous dites vous avez plié, c'est-à-dire?
Non, quoi, avant que vous m'appeliez.
Ah, pardon, j'avais compris. Qu'est-ce que vous faites, Mathieu?
Agent funéraire.
Donc, vous accompagnez les enterrements, c'est cela?
Oui, j'accompagne, puis je prépare aussi, je fais tout ce qui est démarche, puis préparation, puis accompagnement pour les familles aussi, quoi. Donc, période délicate.
Ce qui est un métier évidemment extrêmement particulier d'ailleurs, Mathieu.
Ah, on va dire que c'est un métier un peu pas comme les autres, quoi. Mais comme tout métier, il y a des avantages et des inconvénients, c'est sûr. Mais,
ça réclame une empathie, une délicatesse, un contact à l'autre qui est sans doute dans votre nature, j'imagine.
Oui, et puis ça change la mentalité aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que vous voyez, avant que je ne débute là-dedans, j'étais souvent à me faire des petits tracas, vous savez, il y avait... j'en avais un peu pour mon monde, c'est-à-dire un peu pour moi, et puis les autres aux alentours, et puis on faisait du souci pour rien. Mais quand on travaille là-dedans et qu'on voit malheureusement, une mère de famille qui perd son enfant, là, je veux dire, sincèrement, excusez-moi l'expression, vous prenez une grande claque dans la figure, pour pas dire un autre mot, et là, vous dites, ouais, effectivement, il est pire que moi.
Donc, ça m'a changé votre quotidien, oui, bien sûr.
Voilà, ça m'a changé la mentalité. Je veux dire, au-delà de ça, ça me permet de vivre naturellement, de passer à autre chose. Une fois que j'ai quitté le boulot, je suis déconnecté de tout ça. Et puis, j'aime bien faire. Quand on pourra refaire la fête, comme on dit. Et puis, je suis avec ma fiancée, tout ça. Je veux dire, ma fiancée travaille avec moi aussi, dans ce milieu-là.
Merci Mathieu, on était parti évidemment sur le grand froid, mais...
Oui, écoutez,
merci.
Là, je vais vous dire, j'ai une petite recette, je vais faire une marche nordique, donc j'ai des bâtons, et après je prépare un vin chaud.
Écoutez, bon après-midi.
Écoutez, il va être bon. Avec modération, bien sûr, le vin chaud.
Hein. J'ai bien compris que le vin chaud était encore mieux que l'après-midi, était toujours mieux que la petite balade. C'était
oui,
ça puis l'objectif.
Oui, j'ai pas de vin à manger pour madame, donc vous voyez, comme quoi, elle pourra pas se plaindre.
Écoutez, il est 13h23, donc c'est l'heure. Merci beaucoup, ouais. Mathieu. Nadine est là. Nadine qui habite Trébeurden, dans les Côtes d'Armor.
Tout à fait. Bonjour, monsieur Pascal Pro.
Ah, comment allez-vous? Est-ce qu'il neige en ce moment?
Il neige, c'est pour ça que je vous appelle.
C'est formidable.
Et j'espère que ça va continuer, que je pourrai peut-être aller voir la neige sur la plage. Mais enfin bon.
Trébeurden, c'est où? C'est sur la mer?
On est à 600 mètres de la mer. C'est sur la côte de Granit Rose, à 9 km de Lannion. C'est avec Avantré-Grestel, Ploumana, Perros-Guirec.
Voilà. Ouais, donc là, vous êtes quasiment dans la Bretagne la plus belle.
Ah oui, je suis brestoise, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à Brest. Je suis brestoise et effectivement, peut-être qu'il n'a pas neigé depuis 1986, parce que moi j'étais sur Paris à l'époque, mais c'est assez rare dans la région, parce qu'évidemment on a un climat océanique, voilà.
Et là par exemple, d'ailleurs j'ai dit Trébeurden, c'est Trébeurden.
On dit Trébeurden. Vous savez, la Bretagne, c'est compliqué parce que pas très loin de Brest, il y a un village qui s'appelle Guipavas. J'avais un oncle du Midi qui disait Guipavas, alors qu'on dit Palavas. Et en Bretagne, on dit Guipavas.
Mais Guipavas, c'est l'aéroport de Brest.
Oui,
Guipavas. Donc on connaît un peu Guipavas parce qu'effectivement, qui est près de Gouesnou.
Oui, aussi.
Bien sûr, il y a Guipavas, Gouesnou et Brest. Mais bon, vous êtes dans la Bretagne magnifique, historique. Mais la côte de Granit Rose, Trégastel, c'est exceptionnel.
Ouais. Et Ploumana, ça a été le village qui a été en numéro 1 il y a 2-3 ans, là, le plus beau village de France.
La dernière fois que vous avez vu, vous êtes depuis combien de temps à Trébeurden? Parce que Christian Olivier m'a immédiatement envoyé texto.
Oui, ça fait 3 ans parce que j'étais sur Paris, j'ai fait 45 ans à Paris, alors vous savez, je connais Paris aussi. Et donc, on est venu. Ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans que je suis en retraite, vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte.
Je m'en rends pas trop compte, mais.
Non, mais moi.
Mais vous êtes au départ, vous êtes né où? Vous êtes né en Bretagne, vous avez à Paris et vous êtes reparti en Bretagne?
C'est ça.
Oui,
c'est
vous
ça,
faites trajectoire de classique de beaucoup de Français, quoi.
Bah oui.
Qui reviennent là où ils sont nés.
Et oui, moi je suis née dans les Monts d'Arrée, en fait. Et ensuite, ben, je me suis mariée en 72 et je suis partie à Paris parce que mon mari n'avait pas de travail en Bretagne. Et voilà, et j'ai travaillé dans le 15e boulevard Victor pendant un certain nombre d'années, 30 ans à peu près, oui.
Et là, vous êtes donc de retour en Bretagne et...
De retour depuis 3 ans, oui, voilà. Donc, je fais partie des confinés, pas en ce moment, hein, mais enfin, j'ai subi le confinement aussi. Bon, disons que on était bien en Bretagne, malheureusement, j'ai perdu mon mari fin septembre, donc là, la situation change, évidemment. Ça m'empêche pas d'écouter RTL, quand même. Je suis une fidèle auditrice d'RTL depuis des années et des années. Et j'aime beaucoup votre émission, d'ailleurs, et puis, votre franchise à l'antenne aussi, enfin bon.
Oui, parce qu'en dehors de l'antenne, je ne suis pas franc du tout.
Ah, ça, je ne sais pas.
Je blague.
Mais c'est dommage parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai appelé et je voulais intervenir sur le sujet du livre qui sortait là, de Camille Kouchner.
Oui.
Bon, et malheureusement, je suis arrivée trop tard parce que je suis rentrée un peu plus tard à la maison et le sujet venait juste terminer.
Appelez-nous, Nadine, appelez-nous régulièrement. 3210, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, donc forcément, on n'a pas toujours la possibilité.
Oui, mais j'aurais bien voulu intervenir sur ce sujet, d'autant plus que j'ai acheté le livre tout à fait.
Vous savez ce qu'on va faire, Nadine? On va laisser passer une page de pub, et puis puisque vous vouliez intervenir, vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce livre. Parce que nous, on s'adapte, forcément, c'est le jeu de cette émission, les auditeurs.
Mais c'était un sujet très intéressant, et comme je venais de lire le livre...
Et bien justement, vous nous le dites après la pub, ça vous ennuie pas?
Tout à fait, alors je raccroche.
Ah non, vous raccrochez pas, parce que vous restez avec nous, on laisse une petite page de pub. Nadine de Trébeurden, qui est arrivée, c'est tellement classique, les gens se rendent pas compte qu'il y a peu de Parisiens à Paris. Greg, vous êtes né dans le sud de la France, moi je suis dans l'ouest. Pourquoi on vient à Paris dans 9 cas sur 10? Pour bosser, comme disait Nadine, parce qu'il n'y a pas toujours de travail là où on est, donc on vient à Paris, mais on ne vit pas à Paris par plaisir au départ. Il y a très peu de gens qui sont nés à Paris finalement. Et dès qu'on a la possibilité de repartir, souvent, on repart. Bon, vous êtes jeune encore avant que vous repartiez.
Mais, je vais rester encore un peu, oui.
Mais il y en a, ça se rapproche.
Suivez mon regard.
Il est 13h28. Il a neigé sur Yesterday. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h-14h30, c'est 1h30 d'émission. Donc vous allez nous annoncer, Laurent, ce dont on parlera tout à l'heure.
Faut-il supprimer certaines aides municipales aux familles de délinquants? C'est la mesure décidée par la ville de Poissy dans les Yvelines et son maire, Carl Olive.
Je crois à la réciprocité entre les droits et les devoirs. Aujourd'hui, un mineur entre 12 et 17 ans qui fait une infraction avérée, des graffitis, qui vient délabrer des abribus qui est retrouvé, eh bien nous lui suspendons ou supprimons les aides communales. Le laxisme, ça suffit.
Trouvez-vous normal de supprimer des aides? Est-ce la meilleure solution pour lutter contre la délinquance? Eh bien, nous n'avons pas le choix, il faut en passer par là, écrit Jacqueline sur la page Facebook de l'émission. C'est la seule façon de calmer ces délinquants. Prendre dans le porte-monnaie, je suis pour, nous dit Véro. Pour Gabriel, cette mesure est un aveu d'échec des politiciens pour régler les problèmes de sécurité. Partagez-vous ces avis. 3210. Face à la pornographie en ligne, nos enfants sont-ils suffisamment protégés? Le gouvernement lance aujourd'hui une plateforme d'information jeprotègemonenfant.gouv.fr pour tous les parents et un spot vidéo.
Comment on fait les bébés?
Bah, c'est simple. La femme, elle a quatre pattes,
L'homme lui tire les cheveux et elle crie très fort.
Près d'un tiers des jeunes ont déjà vu du porno avant 12 ans. On se sent tellement démunis, écrit Aurélie, maman de deux adolescents de 12 et 15 ans. Carole est enseignante. Les parents ne se rendent pas compte de l'ampleur du phénomène. Parlez-vous de ce sujet avec vos enfants. Nous attendons vos appels dès maintenant au 3210.
À 13h32, donc on va terminer avec Nadine. Nadine nous a appelé pour parler du grand froid. Elle habite Trébeurden, dans les Côtes d'Armor. Elle a longtemps habité à Paris, puis elle est retournée aujourd'hui en Bretagne. Mais elle nous dit que c'est parfois difficile de nous joindre. Et il y a 2-3 jours, elle l'avait appelé pour parler de Camille Kouchner. Et puis finalement, elle n'avait pas pris, on n'avait pas pu prendre son témoignage. Donc comme vous êtes là, Nadine, et même si c'est pas le sujet du jour, dites-nous ce que vous avez pensé de ce livre et de ce sujet.
Alors, je vais vous dire, j'étais dans une grande surface, je passe devant le rayon bouquin et je vois ce livre qui venait de sortir. Bon, et puis je me suis dit, après tout, tiens, je vais l'acheter, voilà, pour voir. Franchement, c'est un livre qui ne m'a rien apporté du tout. Pas du tout, rien, rien. Elle parle beaucoup de son, du milieu, de son beau-père, d'Olivier Duhamel, bon, voilà, qui était très gentil. Elle faisait des tas d'éloges sur lui, sauf qu'à la fin du bouquin, évidemment, ça change un petit peu. Mais je trouve, pour revenir à ce sujet, je trouve que c'est vrai qu'il y a une hypocrisie dans tout ces milieux, et j'ai été vraiment affligée de tout ça, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme l'histoire de Strauss-Kahn, si vous voulez. Tout le monde, beaucoup de gens étaient au courant de Dominique Strauss-Kahn ou de ses pratiques, enfin bon, de ses tendances et tout ça.
Tout le monde était au courant. C'est pas la même chose. Tout le monde n'était pas au courant qu'il puisse. Non. Et d'ailleurs, il a été, je crois, sur le fond. Je voudrais pas me prononcer, mais je veux dire, les affirmations de viol ont été levées. Tout le monde n'était pas au courant de ce type de choses.
Oui, mais tout ça, bon.
Oui, mais c'est pas la même chose. Pas la même chose d'être entre guillemets coureur de jupons et d'être d'avoir un comportement inadéquat avec les femmes.
Non, pas du tout.
Et même parfois criminel.
Mais je veux dire, quand vous lisez le livre de Camille Kouchner, on s'aperçoit que finalement, on n'aborde pas tous ces sujets. Là, on s'aperçoit que dans son milieu, bon, sa mère, on faisait. Ils étaient quand même un petit peu au courant de certaines choses. Bon, on a voulu un petit peu fermer le bec à tout le monde. Et puis on s'aperçoit dans ce livre que bon, quand ils allaient en vacances dans le Midi, il y avait une très grande maison. C'était un petit peu la maison. Je vais pas dire que c'était la grande communauté. On faisait tout ce qu'on voulait. Voilà. On
vous
riait,
avez appris plein de choses finalement dans le bouquin. Vous dites que ça vous a rien apporté. Mais...
Non, mais ça m'a rien apporté. Mais je veux dire, ça m'a rien apporté de positif. Mais je veux dire, voilà, on s'amusait bien, on fumait, on buvait. On vivait tout nu, enfin, je vous dis, non, ça m'a rien apporté. Ça m'a plutôt affligé. Et puis alors, ce qui m'afflige encore plus, c'est tout ce déballage qu'il y a depuis quelques temps. Alors, sur l'inceste, sur ceci, sur cela. Et
Mais vous le regrettez ou vous trouvez que c'est sain?
Je regrette ce déballage, si vous voulez.
Mais oui, mais c'est pas ma question. Parce qu'on va parler tout à l'heure, par exemple, aujourd'hui, il y a un hashtag Sciences Sport, en référence à Sciences Po. Et ce sont des jeunes femmes qui témoignent qu'elles ont été parfois violées l'IEP de la rue Saint-Guillaume. Donc, quand vous dites « je regrette le déballage », on regrette toujours un déballage, mais est-ce que c'est utile, est-ce que c'est sain pour la société? C'est ça ma question.
Oui, mais je veux dire par là que je ne sais pas s'il n'y en a pas qui profitent en ce moment de cette médiatisation. Si vous voulez, regardez l'histoire Richard Berry. On ne sait pas finalement, on n'est pas là, on ne peut pas juger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai?
C'est le principe de MeToo. C'était le principe de MeToo. Cet argument, effectivement, il était dit d'ailleurs à l'époque MeToo.
Oui, mais si vous voulez, c'est ça qui m'affiche un petit peu. J'ai l'impression que qu'on parle de l'inceste, je trouve ça tout à fait normal, bien que apparemment ça existait depuis des siècles et des siècles aussi, du temps des rois de France. Bon, mais par contre, j'ai bien peur que
avec vous, Nadine, existait qu'il faut que ça existe toujours. C'est ça que mal moi toujours dans ces discussions que je peux avoir avec les uns ou les autres. Bien sûr que ça existait, mais ça justifie. Toujours.
Non, non, mais pas du tout. Ça doit être condamné. D'ailleurs, je suis la première à condamner. Mais je veux dire par là.
Passe peut-être par la parole, alors.
Oui, mais j'ai un petit peu peur que ce soit une porte ouverte à d'autres. Vous voyez, il y a peut-être d'autres livres qui vont sortir, d'autres témoignages. Bon, ceci,
C'est très bien. Mais après, c'est toute la médiatisation qu'il y a autour. C'est ça.
Ben merci, c'est ça Nadine. C'était pas prévu que nous en parlions.
Non, non,
mais...
en tout cas, c'est très, très gentil.
Ben non, je vous en prie. C'était intéressant ce que vous disiez surtout. Très beurdin. Très beurdin. Et vous savez où on va être après? On va être à Guingamp. On va être à Lannion.
Ah bon?
Oui.
Ah, oui.
Vous êtes à combien de Guingamp? 40 km?
Non, 35. 35.
Ah bah oui, 35 km,
35
bien
à peu près.
Bien
mais
sûr.
Mais pour en revenir, pour terminer sur le sujet de l'inceste, non, non, ne croyez pas.
Ah non, mais il n'y a pas d'ambiguïté, je vous assure, il n'y a pas d'ambiguïté.
Non, 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 non.
Et l'Agnon, vous êtes à combien de l'Agnon?
Comment?
Vous êtes à combien de l'Agnon?
9 km.
9 km. De Saint-Brieuc, de combien? 60?
70.
Ah, voilà. C'est la Bretagne. Vous avez vu?
Bah, ouais,
c'est la belle Bretagne.
Ah, ben là, non, mais ça, c'est la côte de granit. Vous rigolez. Caranoni, qui a été élevé dans des mers qui restent toujours plates, nous demande si c'est la belle Bretagne. C'est un garçon qui a des plages qui font 3 mètres de long, si vous voulez, ou 3 mètres de large, plus exactement, et avec des mers qui bougent pas.
Vous plaisantez, Pascal, je reprends vos propos. C'est vous, tout à l'heure, qui avez dit c'est la belle Bretagne, c'est la belle Bretagne, comme si c'était en opposition avec une
non, mais c'est la, ça, voilà. C'est la Bretagne.
Ah, bah nous, on a une plage qui fait 2 km de long.
Mais bien sûr, et puis il y a de la largeur, il y a de l'espace en Bretagne. On n'est pas confinés les uns sur les autres.
Ah, ouais, c'est pas comme dans le Midi.
J'allais vous le dire.
C'est chaleureux, le sud de la France.
Mais
voilà.
Bien sûr.
Mais aussi, chaque région a son charme de toute façon.
Je suis d'accord.
En tous les cas, je vous remercie 13h38. De m'avoir permis de. Voilà,
je vous en prie, Nadine. Nous marquons une pause et nous revenons parce que tout le monde nous appelle de Bretagne. Pour parler, figurez-vous, du froid. Et ça, c'est bien.
Ah oui, c'est froid, c'est vrai, oui.
Oui, bien sûr.
Une bonne crêpe au Nutella pour se réchauffer, là.
Ah non, oui, non, pardon, arrêtez avec les crêpes. L'autre jour, on en a trop parlé, j'ai eu un mail en me disant, ça va, on va pas faire une recette tous les jours.
Vous lisez vos mails?
Comment?
Vous lisez vos mails?
Je reçois des pneumatiques, parfois aussi. Allez, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous voulez penser à moi toute la journée?
Oui.
Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras.
Est-ce que vous connaissez la plage du Moulin Blanc à Brest? Eh bien, figurez-vous qu'elle porte bien son nom aujourd'hui parce qu'elle est blanche, la plage du Moulin Blanc.
Je pensais que c'était parce qu'il y avait un moulin blanc, mais...
D'habitude, il y a un moulin blanc, mais là, elle porte bien son nom, vous dis-je, parce qu'il y a de la neige. Sébastien à Guingamp. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, Pascal.
Comment ça va?
Bon, ça va plutôt bien, merci.
Bon, vous êtes sur la route, vous êtes où?
Ouais, je suis sur la route. Là, je vais arriver à hauteur de Lamballe.
Ah, Lamballe! Magnifique.
Et pour l'instant, on n'est vraiment pas embêté sur la route, en tout cas. Ça floconne un petit peu, mais rien de grave, rien de méchant. Non, rien.
Bon, vous vivez à Guingamp?
Je vis une trentaine de kilomètres de Guingamp, dans les terres, dans les Côtes d'Armor. Mmh. Je suis né là-bas.
Et vous avez trouvé du job là-bas?
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites, Sébastien?
Je suis dans le milieu funéraire depuis une quinzaine d'années.
Ah bah, vous aussi? Nous étions tout à l'heure avec... avec Mathieu, je crois, qui était dans le domaine funéraire également.
Voilà, j'ai entendu également, oui.
C'est tout à fait, c'est une coïncidence. On a deux auditeurs qui appellent à 10 minutes l'un de l'autre. Et donc, vous avez mis des pneus de neige, peut-être? Vous avez prévu quelque chose?
Oui. Si, je suis toute l'année sur la route. Donc, j'équipe les véhicules en fonction du temps. Enfin, en tout cas, en fonction des saisons. Et là, je suis en pneu hiver. Ouais.
Est-ce que vous avez, évidemment, c'est souvent un inconvénient quand il neige, quand on conduit, etc. Mais c'est tellement rare qu'au fond, parfois, ça nous fait plaisir. Est-ce que c'est votre cas d'être heureux aujourd'hui de voir la neige à Guingamp, même si il va falloir rouler plus lentement, même si c'est moins rigolo que d'habitude?
C'est toujours, ça fait moi personnellement, ça me fait plaisir. Quand j'étais petit, il y a toujours eu des épisodes neigeux en Bretagne, plus souvent qu'en ce moment, enfin que ces dernières années en tout cas. Et ça fait toujours plaisir de voir notre belle Bretagne toute blanche le matin quand on se lève.
Ouais, c'est vrai, c'est curieux. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la pureté qui touche le plus grand nombre avec cette neige et qu'on a envie de qu'elle revienne. Alors tous les jours, parce que vous vous souvenez, non, vous n'étiez pas né vous entre 85 et 86. Il y a eu deux hivers terribles où il y a eu beaucoup de neige, et notamment en Bretagne, et la neige est restée quasiment pendant un mois sur le sol.
Tout à fait.
Je raconte pas de salade. Vraiment, à Nantes, il y avait de la neige pendant un mois.
Ouais, exact.
En 86. 85 ouais. D'ailleurs, ça devait être. Merci Sébastien. Il y a Michel également qui est là. Michel qui habite Lannion. Alors Lannion-Guingamp, c'est combien de kilomètres, Michel?
Une petite demi-heure.
25 kilomètres.
Voilà, à peu près.
Bon.
À peu près. Alors là, moi, je vais vous dire bonjour, monsieur.
Bonjour, Michel.
Je vais vous dire, il neigeote. Ça y est, c'est fini. Il n'y a presque plus rien. Il y a simplement quelques petits flocons dans l'air. Ma verdure, là, mon gazon qui était blanc, ça y est, on voit de plus en plus de vert. Waouh. C'est triste. Moi, j'aurais bien aimé avoir une bonne couche de neige, vous voyez.
Comme mais je croyais que... Alors, il est possible, la neige, c'est pas facile, d'ailleurs, hein, à prévoir. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de neige que prévu. Donc, je me demande si on va pas appeler l'ami...
Excusez-moi, il nous annonçait 5-6 cm de neige. Il y a que dalle.
Eh ben justement, mais parce que c'est très dur. Alors là, on va faire un point neige. On va faire un point neige. Ah. Je ne sais pas qui est là aujourd'hui au service météo.
Ce sera Peggy Broche.
Eh bien, Peggy, elle est encore dans la maison, Peggy.
Ah, bien sûr.
Eh ben, on va la faire venir, Peggy. On va la faire venir et puis elle va nous expliquer parce que la neige, j'imagine, c'est pas facile à prévoir, Michel. Mais peut-être que, à votre avis, l'épisode neigeux, Michel, il est passé là.
Ça y est, c'est foutu.
Ah non,
gris,
c'est dommage.
Effectivement, ouais. C'est gris, ça neigeote. Bon, on verra si ça tient. Paraît-il que ça doit neiger toute la journée.
Vous conduisez, là, vous, Michel?
Comment?
Vous conduisez?
Ben, pas du tout, parce que là, monsieur, moi, je suis retraitée.
Ben oui, mais on peut conduire et être retraitée.
Je ne vais pas du tout sortir. Je suis en haut d'une pente, là, enfin, d'une petite montée. Bon, mais je vais vous dire, c'est pas...
Non, mais ce que je veux dire, vous conduisez, vous prenez votre voiture de temps en temps, c'est ça ma question.
Ah ben oui, quand même.
Oui.
Mais vous savez, j'ai habité à Belfort, où il y avait là de belles chutes de neige, avec des 10, 20, 30 centimètres dans la ville. Là, c'était agréable. Un ciel magnifique et la neige. Voilà. Et ici, non, j'arrive pas. Moi qui suis du sud, qui suis des Pyrénées, j'attends désespérément cette neige. J'espère qu'elle va tomber.
Ben, merci, Michel.
Parce que c'est quand même toute ma jeunesse.
Ben c'est vrai, ça nous rappelle, évidemment, souvent, ça évoque des souvenirs. Alors, si en plus il neige à Noël, alors là, c'est le comble.
C'est le summum.
On va marquer une pause et on va être avec Josiane qui habite aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il y a aussi une vague de froid. Alors, est-ce qu'il neige depuis plusieurs jours et de manière plus abondante qu'en Bretagne? Sans doute. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous étions avec Greg Caradenis il y a quelques secondes. Il n'y a pas beaucoup de neige à Marseille, cher Greg.
Non, c'est assez rare.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons au standard sur d'autres sujets. C'est un sujet justement qui monte sur le réseau social Twitter. Le hashtag #ScienceSport. Les témoignages d'étudiantes, d'instituts, d'études politiques se multiplient. Des victimes de viols dans ces écoles prennent la parole sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous exprimer dans l'émission. L'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière nous a quittés hier à 89 ans. Magicien des mots, géant de la création, conteur, un charme et une intelligence dingue. Vous pourrez aussi lui rendre hommage au standard dès maintenant.
Dernier témoignage sur le froid peut-être, Josiane, donc aux Pays-Bas. Bonjour Josiane.
Oui, bonjour Pascal.
Racontez-nous comment ça se passe aux Pays-Bas parce qu'il y a beaucoup de neige.
Bah écoutez, depuis dimanche, il avait commencé à neiger. Il faisait à peu près moins 6. Dimanche, il a neigé toute la journée, lundi toute la journée, jusqu'à ce matin. Donc à peu près, on a maintenant une vingtaine de centimètres quand même.
Ah oui, donc là, il n'y a plus de vélos dans les rues de... Vous êtes dans quelle ville?
Vous n'allez pas me croire, il y a encore des vélos.
Vous êtes dans quelle ville?
À Enschede.
Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous vivez aux Pays-Bas?
Parce que je me suis mariée avec un Hollandais. Mais je ne travaille pas, j'étais infirmière avant. J'étais même infirmière en Suisse. Donc la neige de Suisse ne me faisait pas peur. Puis là, il y a de la neige une fois tous les 10 ans à peu près. Donc vous voyez, c'est pas... Mais c'est vrai que ça perturbe tout, ça paralyse tout, puisqu'ils ne sont pas habitués. Donc il n'y a plus de bus, il y a les trains qui roulent un peu au compte-gouttes. Hier, j'ai dû emmener ma fille à la gare pour retourner à la fac. Bien qu'elle soit fermée, la fac, mais bon, elle a voulu retourner. Eh ben, il faut prendre... on avait dégagé toute la rue parce que le chasse-neige n'était pas passé. Il fallait un petit peu improviser. Puis les routes sont très, très mauvaises. Mais bon, c'est plat. Eh ben, on a des pneus neige. Et puis voilà, ça roule, hein.
Ça nous rassure parce qu'il n'y a pas que chez nous où on est en très grande difficulté quand il y a quelques centimètres de neige.
Ah non, non.
Comment s'appelle exactement la ville, vous avez dit?
Enschede.
Enschede.
Oui.
Et vous habitez depuis combien de temps à Enschede?
Oh, plus de 20 ans déjà maintenant.
Et cet épisode neigeux, par exemple, c'est le plus important que vous avez connu?
Non, il ne me semble pas. Le plus important, ça doit être à peu près, je ne sais plus exactement, mais vers 2005 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus, mais je sais que c'était juste génial parce que c'était à la période de Saint-Nicolas. Puis ici, Saint-Nicolas est beaucoup fêté. Et pour une fois, Saint-Nicolas venait en traîneau, alors que d'habitude, il vient avec son cheval. Là, il a pris traîneau. Enfin, c'était juste magique pour les enfants. C'était juste super. Puis là, on a des... C'est magnifique, la neige. On en a pour une semaine. Bon, on va pas mourir non plus.
Non seulement ça, mais on aime bien parfois. Mais c'est pas si fréquent que ça, quand même, à Enschede, un épisode comme...
Non.
C'est pas chaque année.
Non.
C'est assez rare.
Poil, c'est rien du tout.
Vous êtes à combien de kilomètres d'Amsterdam?
180, quelque chose comme ça. Enschede, c'est tout à côté de la frontière allemande à l'est. Et puis pour aller à Amsterdam, on est carrément à l'opposé, voilà.
Bon, ben, merci beaucoup, Josiane, de ce témoignage. J'imagine que maintenant, vous parlez très bien le néerlandais.
Eh ben oui, tiens, juste à propos du néerlandais, vous avez bien un collègue qui s'appelle De Kerckhoff?
Bien sûr, Ludovic van de Kerckhoff.
Ludovic van de Kerckhoff. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire, van de Kerckhoff?
Ah ben non.
Eh ben, ça veut dire le cimetière. Je suis désolée.
Ah bon, ben, ça lui ressemble pas du tout.
Ça fait froid dans le dos.
Bien, voilà,
c'est une émission spéciale cimetière aujourd'hui. Donc, mais en revanche, parce que c'est dur à apprendre, hein, le néerlandais, est-ce que vous pouvez nous dire, ben, ça me fait très plaisir d'être avec Greg Caradoni sur RTL à l'heure du déjeuner. Pour les auditeurs, on la parole en néerlandais.
Oh là là, ik ben super blij om met Greg Caradoni en de hele familie van RTL vandaag op RTL te zijn.
Parfait. Ça, c'est pour la bande-annonce des auditeurs ont la parole, pour vous dire que... Non, mais alors, c'est vraiment... C'est pas facile du tout, cette langue. Hein. Je sais pas combien de temps vous avez mis pour la maîtriser.
Je l'ai appris. Je suis allée en cours pendant une année et demie. Et puis bon, c'est vrai que je parle pas très bien. Et puis j'ai un bon accent français, comme me dirait tout le monde. Moi, dès que je leur dis bonjour, on dit allô ou aïe, tout de suite ils savent que je suis française, parce que les H, vous comprenez, on les prononce pas nous. Donc,
Bah, merci beaucoup Josiane, vraiment merci.
Je vous en prie, puis je vous souhaite une très très bonne journée.
Bah, c'est très gentil, c'est très gentil. Louis Baudin est avec nous, figurez-vous. Louis.
Oui.
Louis. Vous savez que j'aime beaucoup cet hiver, Louis.
Oui.
J'aime beaucoup cette saison parce que les saisons sont marquées, donc voilà, et puis il fait froid, donc ça c'est bien. Ça. Mais j'ai l'impression que la neige c'est toujours dur à prévoir parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas en Bretagne la neige qu'on avait annoncée. Je me trompe ou pas?
Alors on fera le bilan à la fin de la journée parce que c'est vrai que la neige elle est arrivée avec un petit peu de retard, peut-être une heure ou deux de retard par rapport à ce que l'on prévoyait, et puis ça va durer tout au long de l'après-midi, donc on fera le bilan à la fin de la journée. Mais c'est vrai, peut-être que dans le sud de la Bretagne on aura peut-être pas les 5 à 10 cm.
Oui, enfin, parce qu'il n'y a pas là un Guingamp, Lannion, nos amis qui nous ont appelés, il n'y a pas.
Non, parce que c'est pas encore arrivé complètement. Hein,
ah oui, mais elle pensait que la dame s'était pas passé, que s'il faisait gris, que ça allait pas revenir.
Non, c'est pas encore passé totalement. Hein, donc bon. On fera le vrai bilan d'ici ce soir, quand effectivement l'épisode des Jeux se sera déplacé vers l'Île-de-France, qui sera touchée la nuit prochaine.
Et demain, donc, par exemple, en Île-de-France, il y aura quelques centimètres de neige, vous pensez?
Il y aura quelques centimètres de neige demain matin. Oui, il y aura probablement autour de 5-6 cm. Alors évidemment, si c'est en dessous de 5 cm, il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Si c'est au-dessus, bon, bah, ça peut perturber les premières heures de la journée, c'est certain.
Bon, bah, merci beaucoup. Depuis combien de temps, par exemple, en Bretagne, il n'avait pas neigé? On a des statistiques là-dessus?
Alors oui, il neige en gros tous les 5-6 ans en Bretagne, mais les quantités qu'on attend d'ici la fin de journée, c'est des choses qu'on voit tous les 10 ou 15 ans. Et si on dépassait les 10 cm, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu depuis 1986. Bon, on n'en est pas là. Hein. C'est vrai qu'on devrait plutôt rester en dessous de ces 10 cm d'ici la fin de journée, mais avec la neige, on peut toujours avoir des surprises.
Est-ce qu'il y a des endroits de France où il ne neige jamais?
Oh ben justement, le bord de mer, hein, le littoral atlantique, littoral méditerranéen sont quand même des zones où on voit parfois quelques neiges. On a vu ça cet hiver, hein, on a vu de la neige jusque sur le littoral du Languedoc, mais ça ne dure jamais très longtemps, hein, ça dure 2-3 heures et en général ça fond assez vite. Mais des endroits où il ne neige jamais, non, hein, en France il y a toujours un moment où dans les 10 dernières années on a vu quelques flocons jusqu'en bord de mer, jusque sur la mer.
Merci beaucoup Louis Baudin, 13h55.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va changer de sujet avec la pornographie en ligne. Nos enfants sont-ils suffisamment protégés? Ça, c'est un sujet grave. Parlez-nous de ce sujet. Est-ce que vous parlez d'abord de ce sujet avec vos enfants? On est avec Ethan. Ethan ou Ethan, d'ailleurs, qui habite Toulouse?
Non, Ethan.
Ethan.
Bonjour, vous avez... Monsieur Pro. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices.
C'est intéressant de rappeler que vous avez 4 enfants.
Oui, tout à fait.
Quel âge ont-ils?
Ça va de 5 ans jusqu'à la plus grande et déjà majeure. En fait, bon, je vais faire vite, c'est que bon, moi, ce que je remarque surtout, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas beaucoup de pouvoir justement pour essayer de protéger les enfants. Donc, on peut essayer de mettre tous les parfaits, tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez énormément de sites, notamment de streaming. Bon, pour des films, on va dire normalement à caractère normaux, hein, tout public, comédie ou autre, ou même les sites de streaming pour les dessins animés, notamment japonais, et vous avez tout le temps des bannières partout, mais il y en a partout pour de la pornographie, pas de la pornographie simple, celle qu'on appelait cucu la praline des papas et des mamans à l'ancienne. Non, non, des choses assez hard, très crues, et on essaie de leur expliquer que la sexualité, ce n'est pas ça. Ça peut être quelque chose de beau, qu'on peut y prendre du plaisir et puis éventuellement créer sa vie de famille. Là, vous, malgré les pare-feux, tout un tas de choses, ils ont accès à des choses mais extrêmement trash. Et moi, j'ai des enfants très jeunes qui ont une application, une qui est célèbre, qui s'appelle TikTok. Au dessus, vous avez des choses très choquantes, même pour les plus jeunes. Où ce matin, j'ai un de mes enfants qui a été choqué puisqu'en fait, ça commence par une vidéo toute simple et puis tout d'un coup, vous avez un travesti qui est en train de se masturber. Donc le problème, si vous voulez, c'est que...
Sur TikTok que des gens...
Oui, tout à fait.
C'est une bannière, c'est une publicité qui vient au moment où...
Non, c'est une vidéo. C'est-à-dire que eux...
Mais comment elle arrive, cette vidéo, c'est chaud en bas?
En fait, ça défile. C'est vous, par rapport à ce que vous regardez, et de temps en temps, il y a une nouveauté qui arrive sur quelque chose. Et là, en fait, il n'y a personne derrière pour vérifier tout d'abord le contenu, un peu comme YouTube ou d'autres sites, pour pas les nommer, où vous avez quand même des gens qui vérifient avant, dans la mesure du possible, généralement c'est des ordinateurs, qui vérifient ça avant de le mettre en ligne. Là, non, c'est mis en ligne et c'est aux gens de devoir dire non. Donc en fait, c'est à nous de devoir faire la police sur les sites, de devoir vérifier également tout ce que font les enfants, parce que aujourd'hui avec tous les maboules qu'il y a partout, il faut faire très très attention aux enfants et surtout leur expliquer. Malheureusement, ils ont tous ces contenus pervers et extrêmement violents et eux n'ont pas le recul suffisant pour comprendre, pour ceux, je vais dire,
bien sûr,
déjà adolescents, qui n'ont pas le recul pour savoir où est la perversité, où est le sentiment et toutes ces choses-là. Donc, honnêtement, il faudrait tout simplement, au bout d'une fois ou deux fois que des gens commencent à citer, voilà, tel site fait ci, fait ça, au bout d'un moment, il faudrait carrément, purement et simplement, les bannir, les arrêter de pouvoir émettre dans un pays. Après, malheureusement, il y a tout un tas d'autres choses, les VPN, etc., qui permettent de se faufiler. Mais je pense que s'ils ne prennent pas conscience de ce danger-là, on en arrive à toute cette violence et cette sexualité qui est gratuite, qui est devant leurs yeux et qui pour eux maintenant devient banale et même presque normale.
Merci Ethan de ce témoignage. Et effectivement, il y a beaucoup de parents qui sont inquiets. On va pouvoir poursuivre dans quelques instants après le flash. Il sera 14h dans une minute.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Et on va poursuivre bien évidemment cette discussion sur la difficulté pour les parents à contrôler ce que voient leurs enfants. Mais d'abord le flash avec Olivier Bois.
Et la neige, Pascal, la neige qui est arrivée en Bretagne, on attend 5 à 10 cm d'ici ce soir. Ça n'est plus arrivé là-bas depuis 35 ans. La neige qui va ensuite arriver normalement en Île-de-France ce soir et se propager vers l'est au cours de la nuit. Il fait très froid également dans le nord, température qui reste négative cet après-midi. Ce sera la même chose demain, température négative quasiment partout sur sur la moitié nord, ce sera encore plus doux. Donc demain matin dans le sud du pays. 4 semaines d'enquête en Chine à Wuhan pour les experts de l'OMS et aucune certitude sur l'origine de la pandémie. L'hypothèse que le virus se soit échappé du laboratoire P4 de Wuhan est hautement improbable. A priori, les experts estiment qu'il est probable que le virus ait d'abord été transmis à un premier animal, puis à un deuxième, et ensuite, avant de toucher l'humanité tout entière. Entre 3 et 4 millions de personnes auront été vaccinées d'ici fin février, c'est ce qu'affirme ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui-même vacciné hier à Melun. Gérard Louvain, visé par une plainte pour viol, c'est le journal Le Monde qui révèle l'information. L'homme qui accuse a aujourd'hui 46 ans, il parle de faits qui se seraient produits dans les années 80-90. Le producteur dénonce à nouveau des mensonges. En football, entrée en liste des clubs professionnels en Coupe de France ce soir. 3 matchs au programme, dont Lyon-Ajaccio à 21h. Et puis à l'Open d'Australie, Nadal et Medvedev sont qualifiés pour le second tour. Le français Herbert a perdu contre Fonini en 3-7. Même score pour Gilles Simon face à Tsitsipas. Le quintet à Cagnes-sur-Mer, voici l'arrivée provisoire. Le 12, le 3, le 13, le 9 et le 7.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Face à la pornographie en ligne, nos enfants sont-ils en danger? Parlez-vous de ce sujet avec vos enfants. Le gouvernement lance aujourd'hui un site pour aider les adultes à mieux protéger leurs enfants, mieux utiliser les applis de contrôle parental, mais aussi savoir déconstruire les clichés véhiculés par les films X. Le gouvernement lance mardi un portail web pour tenter, pour aider les adultes à mieux protéger ses enfants. Je crois qu'on voyait tout à l'heure une pub, et on l'a entendu dans le journal de Christelle Robière. C'était intéressant. Elle était crue, cette pub, mais voilà ce que disait un des enfants en parlant d'images pornographiques ou la manière dont on fait l'amour.
Comment on fait les bébés?
Bah, c'est simple. La femme, elle a 4 pattes, l'homme lui tire les cheveux et elle crie très fort.
Donc vous avez compris, c'est 2 enfants qui parlent, il y a une petite fille qui dit comment on fait des bébés, le petit garçon qui manifestement a bu. D'ailleurs c'est un stéréotype parce qu'on considère que c'est le petit garçon qui regarde davantage un film porno que la petite fille qui pose la question. Enfin il me semble que c'est une voix de petite fille. Marie-Hélène, bonjour.
Oui, moi ce que je voulais dire, alors moi j'ai pas eu d'enfant, j'étais cette femme. Mais ce que je veux dire c'est que nos parents, ils nous expliquaient. Ils prenaient le temps quand on voyait quelque chose qui nous choquait. Ils nous expliquaient. Ils se mettaient avec nous. Ils nous disaient voilà.
Ils vous parlaient de sexe, vos parents?
Moi, ma maman, elle est obligée de m'en parler très jeune parce que je suis devenue femme très jeune. Donc un jour, elle est allée dans une bibliothèque. Elle a pris un livre. Et elle m'a dit voilà ce qui va arriver. Et elle a su l'expliquer à une petite fille qui allait avoir 10 ans.
Alors ça, c'était le corps d'une femme, mais sexualité, elle vous parlait de sexualité?
Bien sûr, parce que c'était aussi lié, et avec des mots qui n'étaient absolument pas choquants. Et plus de 40 ans après, je la remercie.
C'est pas si fréquent dans les familles quand même, hein. Il y a une forme de pudeur parfois. Alors mère-fille, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est pas si fréquent que... Non, en tout cas, ça ne l'était pas.
Justement, elle n'a pas voulu que je sois choquée. Et c'est une force.
Non mais là la difficulté c'était encore autre chose. Aujourd'hui c'est les images qui arrivent qu'un enfant de 10 ans prend en pleine figure.
Mais il ne devrait pas être devant la télé à une certaine heure.
Oui mais il l'est parfois par des smartphones et c'est contre son gré. C'est-à-dire que c'est des bannières, c'est ce que disait tout à l'heure Ethan par exemple.
Oui je l'entendais, mais justement.
Et vous faites comment?
C'est peut-être aux parents de vérifier ce que font leurs enfants.
Mais c'est, d'abord, vous avez raison, c'est aux parents de le faire. Mais parfois, malgré eux, vous avez des bannières.
Je pense que c'est surtout aux parents d'être auprès de leurs enfants. Que les parents de notre génération, bon, moi, je n'ai pas été, mais ils ne sont plus à l'écoute de leurs enfants comme nos parents étaient à notre écoute.
Vous trouvez?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça un article dans Elle à propos des jeunes femmes et de leur transformation. Et j'ai été ô combien choquée par cet article quand certaines jeunes filles disaient, mais au fond, c'est mes amis qui me l'ont raconté. C'est le livre, c'est ce magazine. Je me dis, mais c'est le rôle des parents d'expliquer ça. C'est le rôle des parents de savoir sur ça. Alors certes, ça ne doit pas être simple. Moi, je me souviens que ça n'avait pas été simple. Mais ça avait été fait.
Non, mais expliquer la transformation des corps, c'est une chose. Expliquer à un enfant des images choquantes, en tout cas qui sont choquantes pour lui, de pornographie, ça peut être. Mais il faut surtout l'empêcher de les voir jusqu'à un certain âge, parce que ça peut être traumatisant.
Mais bien sûr, mais
un enfant de 5 ans n'a pas à avoir des images pornographiques, ni 10 ans d'ailleurs. C'est ça le problème.
Non, mais de dire maintenant que tu as vu ça, ça t'a choqué, voilà ce que c'est, voilà. Mais maintenant, ne refais jamais ça, ou sinon, si tu revois la même chose, tu m'en parles.
Mais oui, mais c'est ça qui est compliqué dans un enfant, un petit garçon de 11 ans, 12 ans, il peut aller voir par curiosité, une curiosité malsaine, pourquoi pas, mais c'est ça qui est complexe. C'est ça qui est complexe. Moi, j'ai pas la solution, pour le coup. En tout cas, merci, Marie-Hélène, mais il faut protéger. Beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment protéger à cet âge-là. Tous les enfants pour que la sexualité, les images en tout cas sexuelles, il me semble, ne doivent pas entrer dans un cerveau trop jeune, parce que ça peut vraiment être traumatisant et choquant. C'est pas l'âge, comme on dit. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On va parler de Poissy, le maire de Poissy qui a suspendu des allocations. Faut-il supprimer certaines aides municipales aux familles de délinquants? C'est la mesure décidée par Karl Olive, qui est le maire de Poissy. Il est 14h08.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Faut-il supprimer certaines aides municipales aux familles de délinquants? La ville de Poissy supprime ses aides. La mesure a été votée hier soir en conseil municipal et ce n'est pas une première. Le maire de Poissy, Karl Olive, s'en est expliqué auprès de RTL. Je crois à la réciprocité, vous l'avez entendu tout à l'heure, entre les droits et les devoirs. Aujourd'hui, un mineur entre 12 et 17 ans qui fait une infraction avérée, des graffitis, qui vient délabrer des abribus et qui est retrouvé, eh bien nous lui suspendons ou supprimons les aides communales. Bonjour Patrick, qui habite dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bonjour Pascal. Eh ben, j'en pense que, encore une fois, la responsabilité des parents, je pense qu'il est un petit peu engagé quand vous avez des mineurs, comme vous dites, de 11, 12 ans ou 15 ans qui vont faire des dégradations du bien mobilier ou de toutes sortes. Comme l'auditeur précédent est sur le sujet différent qui était sur la pornographie des jeunes, je pense que les parents doivent être franchement beaucoup plus sensibilisés. Ça fait 30 ans que ça, ou 30 ans, ou bien plus que ça dure. Moi, j'ai été choqué il y a une trentaine d'années par un petit gamin dans la rue, que je lui dis, attention, tu vas tomber, hein. Et il me dit, il était 22h, hein, le soir, et il me dit, va te faire, je passe les mots. Donc, je pense que la responsabilité des parents doit être engagée plus qu'elle n'est aujourd'hui. Et pour toucher la sensibilité des parents, il y a une chose qui touche beaucoup, eh ben, c'est l'argent. Si vous menacez, si vous dites on va vous mettre une amende, ça marchera jamais puisque les gens ne paieront pas. Mais si vous retirez de l'argent qu'on vous donne, là je pense que ça va toucher les gens. Et au bout d'un moment, il faut quand même faire un petit peu quelque chose. Je dis pas de mettre les gens dans la misère, de supprimer toutes les allocations, mais il faut quand même marquer le coup. Il n'est pas normal que vous retrouviez à 22h en plein couvre-feu 4 adolescents en train de conduire une voiture sur l'autoroute à 160 km/h. C'est pas normal, quelque part. Les parents ne s'en inquiètent pas.
Donc ça peut être, je sais pas exactement d'ailleurs, les aides qui seront supprimées. Dans les aides, il y a les aides au logement, il y a les aides parfois aux parents. Donc il y a par exemple, c'est pour des transports en commun, des choses comme ça. Voilà, les villes mettent ça en place.
Il y a des
allocations de rentrée scolaire. Il y a bon. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que vous êtes une famille qui est en grande difficulté. Par exemple, à Poissy, une mère de famille qui est seule, qui est les seuls, c'est 4 enfants. Bon. Ouais. Il y en a 3 qui vont bien et puis il y en a un qui fait que des conneries. Bon.
Voilà.
Donc, cet enfant-là, la mère est toute seule. On peut imaginer qu'elle gagne pas des 1000 et des 100, comme on dit. Elle est en difficulté. Elle se tue pour travailler. Elle essaye de tout bien faire. Et puis, il y a un de ses enfants qui fait n'importe quoi.
Bon. Okay.
Donc, vous allez lui supprimer à elle cette allocation qui est peut-être décisive pour le reste de la famille?
on va pas tout lui supprimer, mais il faut marquer le coup. Il faut
non, mais je vous pose la question, parce que c'est une vraie interrogation.
C'est bien ce que je disais, on peut pas tout lui supprimer, c'est une évidence, on va pas laisser les gens dans la misère, parce que l'enfant, il a été faire des graffitis.
Non, mais elle sera pas mais dans la misère, mais on lui enlève ses aides municipales. On peut pas les enlever à moitié, on enlève tout. Donc là, mon exemple, vous en pensez?
Je pense pas qu'il faille tout enlever. Non.
Mais il y en a pas 36 des aides dans les familles. Vous avez vous ne bénéficiez que d'une aide.
Les aides municipales, c'est chaque commune a ses aides différentes. Donc je pense qu'il faut marquer le coup quand même. Si vous le touchez pas au porte-monnaie des gens, ça marchera jamais. Mais moi, ce que je pense, c'est que il faut. Bien sûr, il y a des cas extrêmes, comme vous le citiez, une dame qui est toute seule, qui élève toute seule ses quatre enfants.
Ben c'est souvent ça, les gens qui ont des aides, par définition, les gens qui reçoivent des aides, c'est pas les plus favorisés.
Je comprends bien.
Par définition, c'est déjà des gens qui sont en difficulté.
Je le comprends bien.
Parce que le couple pour qui tout va bien, le monsieur il est avocat et la femme elle travaille, elle est DRH, elle a, ils ont pas de soucis ces gens-là.
Et leurs enfants aussi font des conneries. Leurs aussi font des conneries.
Ah tout à fait, ça je suis d'accord.
Mais ça sera pas les mêmes conneries. Seulement, on peut pas laisser un gamin qui a 7, 8, 9, 10 ans, on va commencer à faire des bêtises. Il va faire quoi quand il en aura 16, 17, 18?
Bah en tout cas, moi, j'aurais bien aimé avoir Carlo, parce que je lui aurais posé cette question tout seul, je le connais un peu, en plus, et c'est un maire très engagé, hein, bien sûr, qui est sur le terrain, qui fait un bon boulot, qui a été réélu d'ailleurs, donc les gens sont contents de cela. C'est un maire anciennement républicain et qui a dû passer du côté de La République En Marche. Mais ça aurait été intéressant de lui poser, c'est toujours pareil, le cas concret. Comment tu réagis? Jean-Pierre est avec nous également.
Oui.
Merci Patrick.
Je vous en prie, bonne journée.
Merci. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bonjour, monsieur Pascal Pro. Oui, eh bien écoutez, j'écoutais les différents commentaires là. À titre personnel et dans mon analyse, on va dire que j'applaudis, je dis bravo pour cette initiative de ce maire. Cette chose-là devrait être, institutionnalisée sur le plan national. Toutes ces aides sociales, voire même allocations familiales, on en parle régulièrement sur vos ondes. C'est un marronnier, je dirais. Mon point de vue est le suivant. Je serais plus pour, on va dire, une humanisation de la sanction. Je veux dire par là, non pas pour une suppression systématique. Vous avez pris un exemple un peu excessif en disant on supprime tout, il y a trois enfants, sur les trois, il y en a un qui déconne, excusez-moi, du propos. Je veux dire qui va pas bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'informatique est notre quotidien, et il fait beaucoup de choses. Alors que lorsqu'il y a des dégradations de mobilier urbain, quand les gens sont pris la main dans le pot de confiture, ou qu'il y ait des problèmes sur le plan scolaire avec des contestations sur certains cours d'histoire, des problèmes de piscine et tout ce qui s'ensuit, suivez mon regard. Ce que je veux dire par là, on peut très bien, les instances, qui gèrent tout ça, pourraient très bien se mettre en rapport par un système informatique avec les organismes distributeurs d'allocations et aides diverses, et faire une sanction, première chose, premier dérapage, un avertissement, en expliquant bien la situation. Deuxième problème, on prend sur la personne X, et non pas sur les 3 ou 4 ou 5 ou 10 enfants qu'il peut y avoir. Sur une personne qui est concernée, on va le taxer de 10 ou 20% de ce qui est dû à, qui serait versé à la famille. OK. Et s'il y a récidive, on augmente le pourcentage de sanctions, de prélèvements. Bon, ceci avec une limitée dans le temps, c'est sur 3 mois, sur 6 mois. Je dis que l'informatique est très compétente pour gérer ce genre de situation. Et quand tout revient dans l'ordre, eh bien, on redistribue ce que... Alors, quand je dis tout revient dans l'ordre, il faut savoir qu'au sein des familles, je pense qu'il y aurait une autorégulation, qu'il y aurait sans doute une prise de conscience où on commencerait à tirer les oreilles, si je puis me dire, on tirerait les oreilles.
C'est le but, j'imagine que le but de cette sanction, c'est précisément ce que vous dites, c'est que la responsabilité revienne sur les parents et qu'ils fassent pression sur les enfants. Est-ce que ce sera efficace?
Vous savez, pour en venir à ce que vous... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Pro, car on arrive bien sûr au terme de votre émission. Ce que je voulais simplement dire également, c'est qu'il y aurait cette autorégulation qui serait faite au sein des familles, et ce qu'il faudrait, c'est voir ensuite, on fait des expériences au lieu de nier systématiquement, non, ce serait pas bien, comme disent certaines associations bien-pensantes, ou certains partis certains partis très à gauche, en disant non, non, on rajoute de la misère à la misère, évidemment, tous ces grands poncifs, etc. Non, on ferait ça d'une manière progressive, je dirais programmée. Vous voyez, nous-mêmes, tous autant que nous sommes qui conduisons, on fait quand même un peu plus attention à respecter les limitations de vitesse, parce que si on dérape un peu trop, ben,
Monsieur Jean-Pierre. J'entends bien, je vous remercie pour ce dernier témoignage sur les aides, bien évidemment, et la suppression progressive des aides. Alors, il nous restera quelques minutes. Après, il y aura le débrief, le fameux débrief. Vous savez qu'on parle beaucoup du débrief, Greg Caradoni.
Que vous dit-on à propos du débrief?
Ben, on dit que c'est un moment qui est attendu. Qui y aura-t-il dans le débrief? Que mettra-t-il? Est-ce qu'il mettra, par exemple, à votre avis, notre ami Batave, notre ami française qui s'est exprimé en néerlandais?
Peut-être, ça, tout ça est entre les mains et dans le cerveau unique de Laurent Tessier.
Donc restez avec nous, c'est des points d'orgue.
Je sais pas si on doit avoir hâte ou pas.
Pourquoi?
On verra avec le débrief.
Oui. Vous n'avez pas pensé, il va neiger sur Yesterday, vous n'avez pas pensé de Marie Laforêt cette chanson?
Vous me sous-estimez.
Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés.
C'est bien ça, hein? Elle était belle, Marie Laforêt. Vous vous souvenez de Plein Soleil où elle joue Marge avec ses yeux bleus? Elle jouait également dans le. Pas dans le professionnel, mais dans Flic ou Voyou. Elle est d'une beauté incroyable.
Quelle carrière!
Chanteuse, actrice. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Hommage à Jean-Claude Carrière pour terminer avec Thierry. C'est vrai que 80 films, des scénarios, des chansons, des pièces de théâtre, c'est quelqu'un qui aura traversé la vie avec un stylo, Thierry. Vous êtes comédien vous-même et vous avez joué une de ses pièces.
Oui, bonjour Pascal. J'ai envie de vous dire, Pascal, mes respects parce qu'on se connaît en fait, mais... Sans vraiment se connaître, je vais vite me situer. Je suis le grand frère de Walter, l'opticien de la rue Saint-Dominique. Voilà, c'est juste pour situer le personnage et puis c'est tout, quoi.
Bien sûr, bon. Faisons un peu de pub si vous voulez pour les opticiens et il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est-à-dire que je me rappelle, nous avions échangé à l'époque, c'était très furtif. Et je sais que vous êtes un fidèle de
bon, je précise que je ne suis jamais au courant des auditeurs qui passent. Hein. C'est pas moi qui vous ai appelé ni quoi que ce soit qui est pas d'ambiguïté.
Bon,
parlez-nous. Bah, entre nous, il y a des millions de gens qui nous écoutent. Parlons de Jean-Claude Carrière et qu'est-ce qui le définit selon vous?
Alors, Jean-Claude Carrière, moi j'ai eu l'occasion de jouer sa première pièce de théâtre en 2002 et 2003. Qui s'appelle l'aide mémoire,
qui avait été créée par Delphine Seyrig.
Exactement en 1968, oui. Mm. Et cette pièce de théâtre qui avait fait l'unanimité parmi notre troupe sur plein de points et le hasard, je dirais, a voulu qu'elle a été présentée au Festival d'Avignon, en 2002, et puis succès aidant en 2003. Alors, le choix de cette pièce a été guidé par un ensemble de choses. Je connaissais pas du tout cet auteur, et puis lorsque nous avons appris que le point de départ de cette pièce était quelque chose qui lui était arrivé de la façon suivante. Il y avait un chat qui rentrait tous les jours chez lui, chez Monsieur Carrière, et qui s'est installé avec un culot sidérant. Et ce fait-là a inspiré l'aide-mémoire.
Bah merci Thierry de ce témoignage et de cet hommage, puisque c'est l'heure du débrief. Il est 14h23, donc on voulait rendre hommage à Jean-Claude Carrière. On aurait pu citer Valmont, Cyrano de Bergerac, évidemment, mais aussi les films de Louise Bunuel auxquels il a participé, Belle de jour, bien sûr, des chansons écrites pour Juliette Gréco ou Brigitte Bardot. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Qui y aura-t-il dans le débrief? Que mettra-t-il?
Oui, le suspense était insoutenable. Verdict.
Il a neigé sur Yesterday, le soir.
Un indice avec cette musique. De quoi peut-on bien parler aujourd'hui à la machine à café ou en visio avec ses collègues devant son ordinateur?
Le sujet du jour, c'est il fait froid.
Et oui, et posons s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la question polémique du jour.
Faut-il interdire le froid?
Ah, question délicate. Alors, lançons plutôt un appel à témoignage.
Si vous habitez à Guingamp, à Lamballe, à Saint-Brieuc, à Brest, appelez-nous et dites-nous si vous voyez tomber la neige.
Tombe la neige.
Mathieu, justement, nous a appelé du nord de la France. Quel est son programme idéal?
Je vais faire une marche nordique, donc j'ai des bâtons, et après je prépare un vin chaud. Avec modération, bien sûr, le vin chaud.
Hein. J'ai bien compris que le vin chaud était encore mieux que l'après-midi, était toujours mieux que la petite balade. C'était
oui,
ça,
puis
l'objectif.
J'ai besoin à manger pour madame, donc vous voyez, comme quoi, je pourrai pas se plaindre.
Bon appétit, madame Mathieu. Allons maintenant dans les Côtes d'Armor rejoindre Nadine avec une information.
Vous savez, la Bretagne, c'est compliqué parce que pas très loin de Brest, il y a un village qui s'appelle Guipava. J'avais un oncle du midi qui disait Guipavas, alors qu'on dit Palavas. Et en Bretagne, on dit Guipava.
Et dans les auditeurs à la parole, nous avons assisté aujourd'hui à une guerre nord contre sud. Oh, ambiance tendue dans le studio Pascal Pro, le breton. Spécialiste des galettes, le maître des crêpes.
Ah non, non, pardon, arrêtez avec les crêpes. L'autre jour, on en a trop parlé, j'ai eu un mail en me disant ça va.
Bon, Pascal Le Breton, tout simplement, contre Greg Caranoni, le Méditerranéen. Qui va remporter cette battle? Pascal a dégainé le premier.
Caranoni, qui a été élevé dans des mers qui restent toujours plates, nous demande si c'est la belle Bretagne. C'est un garçon qui a des plages qui font 3 mètres de long, si vous voulez, ou 3 mètres de large, plus exactement, et avec des mers qui bougent pas.
Victoire de Pascal Probon, vous l'avez compris, il fait trop froid, réchauffons un peu tout le monde, après tombe la neige. Allez, tombons la chemise tous ensemble. Confession de l'ami Pascal aujourd'hui.
Vous avez vu le ministre de la Santé, il a montré son torse hier, ses muscles.
Exactement.
On a pu apprécier sa belle ossature.
Ouais, belle révélation. Bon, 14h27, il se fait tard, comme dirait Jean-Pierre.
On arrive bien sûr au terme de votre émission.
Oui, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui va me faire détester par tous les parents en France. C'est cadeau, le refrain, toute la semaine dans la tête.
Libéré.
Formidable. Merci beaucoup. Flavie, est-ce qu'elle est là déjà, Flavie Flamand? S'il vous plaît, Madame Flamand est demandée. Madame Flamand est demandée au parloir. Madame Flamand.
Je pense pas qu'en disant avec le parloir, ça la motive.
Pas au parloir, alors. Madame Flamand, s'il vous plaît, il est 14h27. C'est votre heure, mais qu'est-ce que vous faites, Madame Flamand?
Oh là là.
Bon, à tout de suite, Flavie Flamand.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT.